But that's folk music for you. Folk music, it does this all the time.
You see, the songs, though, is what I do.
Does anybody have another guitar?
A message? You mean, like, what song with a message?
You're all gonna get the fuck out of here and never come back.
Merci, merci.
France Inter.
RTBF La Première.
Mishka Assayas. Very Good Trip. Bob Dylan.
Don't boo me anymore.
Okay.
Le temps est enfin venu d'entendre la voix de celui qui, un beau jour de 1965, a renversé la table de la musique populaire mondiale.
Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bums of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal.
Complete unknown.
nothing to lose. You're invisible now. You got no more secrets.
Prise de Like a Rolling Stone où Bob Dylan s'est très très légèrement emmêlé les pinceaux à la fin.
I'm afraid I screwed up.
On peut la trouver dans un coffret de pas moins de 5 albums. C'est le 12e volume des archives sonores du chanteur qui s'appelle The Bootleg Series. Et ce coffret couvre seulement 2 années, 65 et 66. Mais enfin, quelles années ? J'allais dire, elles ont changé la face du rock. Non, c'est bien trop étroit. Elles ont pulvérisé les limites de ce qu'on avait l'habitude et le droit de faire dans le cadre de la musique populaire. Le coffret dont je viens de vous parler résume l'affaire sous le titre The Cutting Edge. C'est une expression qu'on utilise en anglais pour désigner à peu près l'avant-garde. C'est exactement ça. Like a Rolling Stone, c'était une chanson d'avant-garde. Déjà, elle était longue de 6 minutes, ce qui était en théorie beaucoup trop long pour passer à la radio. Enfin, Dieu merci, voilà, plus de 50 ans après, tout va bien, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et le manager de Bob Dylan, Albert Grossman, avait dû batailler pour imposer que cette chanson diffusée en 45 tours, enfin en single si vous préférez, ne soit pas tronquée. Alors à quoi peut-on comparer l'effet qu'a produit Like a Rolling Stone à sa parution à l'été 1965
New York Herald Tribune.
Peut-être au choc qu'ont pu éprouver en 1907 ceux qui ont vu pour la première fois les Demoiselles d'Avignon de Picasso, qui était l'acte de naissance du cubisme, ou comme pour ceux qui en 60
New York Herald Tribune.
Ont découvert le premier film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, qui a, comme vous le savez, entraîné la nouvelle vague. Alors il y a ceux qui ont adoré, et puis il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui ont compris, et ceux qui n'ont rien compris. Oui, c'est vrai, c'est cette façon de chanter déjà était tellement étrange, celle d'un adolescent insolent, dans la bouche duquel les mots se bousculent et qui, pour ainsi dire, n'a pas encore trouvé son centre de gravité. Puis il y avait cette façon de scander les mots en déséquilibre permanent, comme si tout ce que Dylan racontait, d'une certaine façon, était plus fort que lui. Non, on n'avait jamais entendu ça à la radio, et encore moins dans les jukebox. Plus qu'une chanson, Like a Rolling Stone, c'est une longue litanie, une sorte de monologue sauvage qu'il adresse à une en l'occurrence, une destinataire mystérieuse, quelqu'un de complètement largué, en perdition, qui voit la terre s'effondrer sous ses pieds. Une, entre guillemets, pauvre petite fille riche qui a coupé les ponts avec son milieu et qui se retrouve déchue à la rue avec les clodos. Enfin bon, c'est pas tout à fait littéral, hein. Il y a d'étranges figures d'ailleurs qui apparaissent, des jongleurs, des clowns, hein. Très souvent le monde du cirque se fait jour chez Dylan, et puis un énigmatique protecteur qui se balade avec un chat siamois perché sur son épaule, sans doute Andy Warhol, enfin, c'est ce qu'on a dit, un mystérieux vagabond, un clochard qui ressemble à Napoléon vêtu de haillons, enfin très vite ça tourne à la vision de cochon. Et la force de Dylan, et ça c'est quelque chose qu'il a vraiment en propre, c'est que Like a Rolling Stone, c'est pas juste une chanson que vous écoutez et puis simplement vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Non, Dylan vous entraîne dans sa tête, il vous empoigne, et ce « How does it feel ?» insolent, vous avez l'impression qu'en fait il sort de vos propres tripes. Alors il y a un aspect que les principaux commentateurs de l'œuvre de Bob Dylan, et Dieu sait qu'il y en a eu, ne soulignent que trop rarement, c'est le côté comique, le côté BD ou dessin animé de ses chansons. Prenez une des plus connues, elle a donné son titre à l'album dans lequel figure Like a Rolling Stone, je veux parler bien sûr de Highway 61 Revisited, hein, la Grand Route 61, revue et corrigée on pourrait dire. Une une route que Bob Dylan connaissait très bien, parce qu'enfant, elle l'avait fait rêver. Elle partait de Duluth, hein, c'est la grande ville dont il était le plus proche, à la pointe ouest du Grand Lac Supérieur, hein, dans le Minnesota. Elle était très, 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 très longue, cette route 61, puisqu'elle allait jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en passant par les grandes villes de St. Louis et de Memphis. Bien des musiciens de blues, évidemment, l'avaient empruntée, mais eux, c'était du sud vers le nord, pour chercher du travail dans les grandes villes industrielles, Chicago et Détroit principalement. Alors, Dylan, quant à lui, évidemment, il fantasmait sur le trajet inverse. Alors là, dans la chanson qui a donné son titre à cet album, La Route 61 est le théâtre d'une sorte de farce surréaliste. Ça commence par un épisode bien connu de la Genèse, mais leur version un peu comic book. Alors je traduis mot à mot, hein, le début de la chanson. Dieu a dit à Abraham, tue-moi un fils. Abe, Abraham, a dit, hey mec, tu me fais marcher. Dieu a dit non. Abe a dit quoi ? Alors Dieu a dit, écoute Abe, tu fais comme tu veux, la prochaine fois que je me pointe, t'auras intérêt à prendre tes jambes à ton cou. Alors bon, Abe dit, et où est-ce qu'il faut que je le tue ? Dieu dit, sur la route 61. Voilà, réponse simple. Il y a aussi alors le joueur vagabond dans la chanson qui, parce qu'il s'ennuie un peu trop, envisage de faire démarrer la Troisième Guerre mondiale. Facile, lui dit un entrepreneur de spectacle, je vais installer des gradins sur la route 61. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir le prix Nobel de littérature.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, hold on Highway 61. Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. One right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out.
France Inter,
RTBF La Première,
Very Good Trip, Bob Dylan.
The sweet pretty things are in bed now, of course. The city
many fathers they are trying to endorse the reincarnation of Paul Revere's horse, but the town has no need to be nervous. The ghost of Bellstar, she hands down her wits to Jezebel the nun, she violently knits a bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. She moans, I've just been made. Sends out for the doctor, who pulls down the shade and says my advice is to not let the boys in. Then the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for the food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Torturing a thief, says the hero, the commander-in-chief. Tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for the food. I'm in the kitchen with the tombstone blues.
Une version écourtée dans un rire étouffé, hein, vous l'avez entendu, d'un des nombreux classiques écrits et enregistrés par Bob Dylan en 1965. Alors, comme beaucoup d'admirateurs de Dylan, je me suis gratté la tête quand j'ai découvert ça il y a bien longtemps, en me demandant ce qui avait bien pu justement passer par la sienne quand il a écrit Tombstone Blues, hein, ce blues de la pierre tombale dont le refrain dit « Maman est à l'usine et n'a pas de chaussures, papa est dans la ruelle, il cherche à manger et moi, je suis dans la cuisine avec le blues de la pierre tombale ». Alors, vous ne pouvez pas imaginer le tombereau de commentaires qu'ont pu déverser sur cette chanson ceux qu'on a appelés, pour se moquer gentiment d'eux, les dylanologues. D'ailleurs, à propos de ce mot dylanologue, je me rappelle qu'il y a une cinquantaine d'années, il y en a un qui est très très sérieux, un gars qui s'était proclamé officiellement dylanologue. C'était sa raison sociale, et je me rappelle, je suis extrêmement sérieux, il avait une fois fouillé les poubelles de Bob Dylan dans le but d'en analyser le contenu. Maintenant, ça me revient, il s'appelait Bieberman. Dans Tombstone Blues, alors il y avait de quoi faire carburer le cerveau des exégètes et leur donner du fil à retordre. Des personnages sortis de la Bible, bon, on a l'habitude avec Dylan, Samson, Dalila, Saint Jean-Baptiste, qui côtoient des figures de légende comme Bellstar, c'était une femme hors-la-loi, qui est coiffée d'un Stetson orné d'une plume, chevauchait parmi les territoires indiens, du Texas à l'Oklahoma. Il y a aussi Jack l'Éventreur, on peut se demander ce qu'il fait là-dedans, d'autant que Dylan précise que celui-ci, donc Jack l'Éventreur, coiffé d'une perruque, siège à la tête de la chambre de commerce. Cela dit, dans ces visions entre carnaval et films d'horreur, certaines images prennent un relief très particulier dans le contexte des années 60, marqué, comme beaucoup le savent, par les débuts de l'engagement américain dans la guerre civile au Vietnam, aux côtés du Sud.
I came here to speak to you about Vietnam.
Je cite Dylan donc dans Tombstone Blues. Le roi des Philistins, qui a ses soldats à sauver, pose les os de leurs mâchoires sur leurs tombes et encense leurs sépultures. Il jette les meneurs d'hommes en prison, il engraisse les esclaves et les expédie dans la jungle. Alors on se doutait bien, quand on écoutait Dylan en 65, de quelle jungle infernale il s'agissait. Cela dit, cette image du roi des Philistins qui dépose les mâchoires des soldats tués au combat sur leur propre tombe, on la trouve à la lettre dans le livre des juges, c'est dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est intéressant à souligner, l'os de mâchoire devient l'arme de la vengeance, puisque Samson, un juge à la force légendaire, enfin dans la Bible, a tué 1000 Philistins à l'aide d'un tel os. Il est vrai qu'il s'agissait de la mâchoire d'un âne et non d'un homme, ce qui est loin d'ôter quoi que ce soit au caractère surhumain d'un tel exploit, évidemment. La pochette de l'album Highway 61 Revisited présente une photo de Dylan cadrée d'assez près, assis sur les marches d'un immeuble. Il a les cheveux coiffés en pétard, une chemise bariolée ouverte sur un t-shirt à l'effigie des motocyclettes Triumph, et il fixe l'objectif d'un air pensif, contrarié et défiant, tout à fait même à la James Dean. C'est la première fois qu'une pochette d'un album de Dylan a la puissance d'une affiche de film. Elle attire, elle intrigue, elle fait réagir. Et d'ailleurs, au cours d'une conférence de presse de Dylan, il y a un journaliste américain extrêmement sérieux qui interroge gravement Dylan sur le sens de cette image. Voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, alors qu'à l'évidence, évidemment, elle n'a aucun sens particulier. Et Dylan répond en rigolant, il dit qu'il était assis sur ses marches, on l'a pris en photo, voilà, c'est tout. Mais c'est trop tard, désormais, tout ce que va dire, écrire, chanter, montrer Bob Dylan va être analysé, scruté et interprété par un cercle croissant d'admirateurs fascinés par le moindre de ces faits et gestes. Il faut évidemment rappeler qu'à l'époque, le mystère existe encore autour des musiciens, et dans un monde où on attend avec impatience que les disques sortent pour pouvoir enfin les écouter, où la télévision en est encore à sa préhistoire, où l'internet évidemment n'existe pas, encore moins Instagram, eh bien les artistes semblent encore vivre sur une planète inaccessible. Et pardon pour cette comparaison qui paraîtra à certains tirée par les cheveux, voire sacrilège, le monde dans lequel apparaît Bob Dylan est plus proche de celui de Greta Garbo que de celui de Madonna. All right. Dans Highway 61 Revisited, il y a très belles chansons à la tonalité plus personnelle, comme celle-ci un peu hispanisante qui s'appelle Just Like Tom Thumb's Blues, tout comme le blues de Tom Pouce. C'est le récit d'une virée à Juarez, c'est de l'autre côté de la frontière au Nouveau-Mexique, où Dylan a, semble-t-il, rendu visite à des femmes de mauvaise vie, hein, comme on disait pudiquement, qui ne lui ont pas laissé que de bons souvenirs. Mais enfin, il s'est soigné à sa façon, et comme il dit, j'ai commencé par le Bourgogne avant d'attaquer les choses sérieuses.
Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Ain't any, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost.
TBF La Première.
France Inter, Mishka Assayas, Very Good Trip, Bob Dylan.
The moon look good.
winter time is coming. The windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I could not get across. Well, I wanna be your lover, baby. I don't wanna be your boss. Don't say I never warned you when your train gets lost.
Tranquille, un peu triste, scandé par le piano bastringue d'un musicien noir de Harlem, Paul Griffin, un musicien formé au gospel qui avait fait partie du groupe de tournée du grand saxophoniste King Curtis. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Il en faut beaucoup pour nous faire rire, mais il suffit parfois d'un rien, en l'occurrence d'un train, pour nous faire pleurer, dit la chanson. Un pur blues, hein, les paroles ont d'ailleurs quelque chose d'archaïque et de très simple. On est loin de la fresque baroque de Tombstone Blues ou des moqueries aussi acides que fleuries de Like a Rolling Stone. Là, c'est une chanson, pour ainsi dire, en noir et blanc ou en sépia. Un homme seul dans un train à vapeur roule faire son destin. Le soleil se couche, l'hiver arrive. Alors il est jeune, il pense à une femme qu'il aime ou qu'il a aimée, et son destin, on l'imagine, sera tragique. Il va sans doute mourir jeune, comme tous ces grands musiciens de blues qui ont fait rêver Bob Dylan, évidemment Robert Johnson en tête. Alors à présent, je vais anticiper un peu sur l'émission prochaine, qui sera centrée sur un des albums les plus fascinants de Bob Dylan, Blonde on Blonde, sorti en 66, un album enregistré entre New York et Nashville, hein, une des capitales du blues et de la country. C'est un album double, vinyle évidemment à l'époque. Il est sorti en juin 66 et il a eu un immense impact comparable au Revolver des Beatles. Dylan partait encore ailleurs, là où il n'était jamais allé, et je vous en parlerai bien sûr la semaine prochaine. Un mois avant la sortie de Blonde on Blonde, Bob Dylan a donné un concert qui est resté légendaire en Angleterre. C'était sur la scène du Manchester Free Trade Hall. Un concert en deux parties. La première en solo, acoustique. Il était armé de sa seule guitare et de son harmonica. Et la seconde, elle a fait évidemment scandale. On y reviendra parce qu'il était accompagné par un groupe de rock canadien assemblé autour d'un homme du sud des États-Unis, Levon Helm, qui avait émigré à Toronto. Le groupe s'appelait The Hawks, hein, les Faucons, avant de devenir tout simplement The Band. Et en solo, sur la scène donc de Manchester, Dylan a chanté une des chansons les plus énigmatiques, les plus fascinantes, les plus intrigantes de l'album Blonde on Blonde, que le public ne connaissait alors pas encore. Visions of Johanna. Alors je pèse mes mots, cette version, peut-être moins riche musicalement que celle qu'il a enregistrée à Nashville, a quelque chose de magique. Dylan, d'ailleurs, on le voit dans le document filmé de ce concert, on le voit fermer les yeux et comme dans un état second. Sa voix est moins traînante que dans l'enregistrement de Blonde on Blonde. Elle donne une précision presque surnaturelle à des paroles qui mettent en scène un homme déchiré entre deux femmes, celle qui est là et celle qu'il imagine. Et il est perdu entre les deux, j'allais dire entre les deux mondes, dans une sorte d'hallucination surréaliste où éternuent des femmes à tête de méduse et où on voit des jumelles et des bijoux pendre au cou d'une mule. Oui, c'est extrêmement bizarre, mais quand Dylan chante tout ça, comment dire, c'est comme s'il l'avait vraiment vu et il plaisante pas du tout.
Very good trip, Bob Dylan.
It's just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we all do our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Johanna that come my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, they whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them who should be insane. But Louise, she's alright, she's just near. She's delicate, she seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face, where these visions of Johanna have now taken my place. Little boy lost, he takes himself so seriously. He brags of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of her farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity is going up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Jewels and binoculars
hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess, who's pretending to care for him, saying, name me somebody that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, many as she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old, on the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The harmonicas play, the skeleton keys and the rain, and these visions of Johanna are now.
Inter.
RTBF La Première.
Mishka Sayas. Very Good Trip. Bob Dylan.
You walk into the room with your pencil in your hand. See somebody naked in you, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. Says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Ballad of a Thin Man, ballade d'un homme inconsistant, on pourrait dire en tirant à peine le sens, certainement une des chansons les plus impressionnantes à figurer dans l'album Highway 61 Revisited de Bob Dylan, donc sorti à l'été 65. Son célèbre refrain « Because something is happening here and you don't know what it is, do you, Mr. Jones ?» est resté proverbial, presque aussi célèbre que le « How does it feel ?» de Like a Rolling Stone, parce que vous savez qu'il se passe quelque chose ici, mais vous ne savez pas quoi au juste, n'est-ce pas, Mr. Jones ? C'est la réponse narquoise que Dylan a choisi de faire à tous ces journalistes cultivés et bien intentionnés des années 60, il en a rencontré un paquet, qui voulaient absolument comprendre le sens de ce qu'il écrivait et chantait, ce qu'il, entre guillemets, voulait dire par là. Alors, la réponse exacte, bien sûr, c'est que Dylan était un poète et qu'il n'avait pas lui-même la moindre idée de ce que signifiaient la plupart des images qui lui passaient par la tête. Elles jaillissaient, elles bondissaient dans sa tête et il les découpillait et les lançait comme des grenades. Alors, bien sûr, tous les Mr. Jones de la Terre se grattaient la tête et se demandaient « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Quel était au juste son message ?» Et Dylan lance des flèches empoisonnées contre ce pauvre Mr. Jones, voilà, qui paye pour tout le monde, un homme instruit qui a lu les livres de Francis Scott Fitzgerald. Et Dylan envoie contre lui toute la bande délirante qui défile dans sa tête, sortie du cirque de son enfance. L'avaleur de sabre, le nain borgne qui lui crie dans l'oreille « Vous êtes une vache, alors donnez-moi du lait tout de suite !»
My name's Jean-Michel Basquiat. Have you heard of me?
No, should I have?
Yeah, I'm a painter too.
Ça rappelle un documentaire passionnant sur le peintre Jean-Michel Basquiat. Il est interviewé par un critique d'art. C'est une scène vraiment de comique involontaire où le critique lui demande « Alors là, vous avez tracé un cadre autour d'une inscription. » Oui, oui, bah oui, je l'ai fait, répond Basquiat. Et l'autre, « Oui, mais alors pourquoi ?» Et Basquiat répond « J'en sais rien, c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est tout. » Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Mr. Jones qui se présentent comme des artistes et qui expliquent tout ce qu'ils font par de grandes phrases avec de grands mots. Et comme le disait le très grand musicien new-yorkais, le trompettiste John Hassell qui vient de nous quitter, remarquable citation qu'a relevé Jacques Denis dans Libération, je la cite, « Les mots ont pris le pas sur les sentiments, les définitions dressent des barrières, imposent des codes et des uniformes. » Je suis sûr que Bob Dylan serait d'accord. On l'écoute une dernière fois avant d'y revenir la semaine prochaine dans cette chanson qui s'appelle « Positively 4th Street » et qu'il a publié en 45 tours en single, en fin 65, entre « Highway 61 Revisited » et « Blonde on Blonde ». Une chanson qui ressemble clairement un règlement de compte avec ses anciens amis du milieu du folk new-yorkais qui l'ont bien débiné parce qu'il faut dire qu'il le jalousait beaucoup. Et voici comment commence la chanson. « T'as un sacré culot de prétendre qu'on est amis quand j'étais au fond du trou, t'es resté là à rigoler. »
You're so hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Behind my back, I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with? Street, you always act surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out?
Et voilà, on quitte le Bob Dylan et cette exceptionnelle année 1965 avec Positively 4th Street. On se retrouvera pour l'épisode prochain consacré à l'année 66, pas moins importante. Merci beaucoup à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission. Merci à Michel Bézikian à la technique. Tout de suite après les informations, eh bien, vous allez déguster avec François-Régis Gaudry.